Jack London, Le Vagabond des Étoiles, chapitre 8, La dynamite ou la mort. Me voilà donc dans ma cellule numéro 1, en butte à une recrudescence de menaces de la part du gouverneur Atherton et du capitaine Jamie. « Voyons, Standing, me déclara le gouverneur, il faut en finir une bonne fois avec cette dynamite, ou je te ferai périr dans la camisole. D'autres, plus intelligents que toi, m'ont avoué ce qu'on leur demandait avant qu'il ne fût trop tard pour eux. C'est un choix à faire, la dynamite, ou sauter le pas. Alors, répondis-je, je sauterai le pas, puisque je ne sais rien de la dynamite. » Le gouverneur mit sur le champ ses menaces à exécution. La toile fut étendue par terre. « Couche-toi, Standing, » ordonna-t-il. J'obéis, car j'avais appris que c'était folie de résister à trois ou quatre colosses réunis. Je fus étroitement lacé, et on me donna 100 heures à faire. Toutes les 24 heures, on me permettait de boire un verre d'eau. Pour la nourriture, j'en éprouvais nulle envie, et d'ailleurs, on ne m'en offrit pas. Vers le terme de la 100e heure, le médecin de la prison, le docteur Jackson, examina à plusieurs reprises ma condition physique. Mais j'avais trop pris déjà l'accoutumance de la camisole pour qu'une simple séance, dura-t-elle 100 heures, pût attaquer gravement ma constitution, sans parler des subterfuges musculaires que j'avais découverts et qui me permettaient de carotter un peu d'espace, tandis qu'on me lassait. Je me relevais affaibli, sans doute me prit-on encore un peu de vie, mais je sortis de cette épreuve harassé et rompu. Rien de plus. Après un jour et une nuit qui me furent accordés pour récupérer mes forces, je fus gratifié d'une seconde séance, celle-là de 150 heures. Il en résulta chez moi un engourdissement physique général et, pour mon cerveau, un abrutissement inconscient. Je réussis ainsi à voler autant de longues heures de sommeil. Puis le gouverneur Atherton essaya de diverses variantes. On me donna un intervalle irrégulier de la camisole et de la récupération de force. Je ne savais jamais quand je devais entrer ou ne pas entrer en camisole. Tantôt j'avais 10 heures de repos et j'en faisais 20 dans ma toile. Tantôt on ne me laissait que 4 heures pour respirer. En pleine nuit, alors que je m'y attendais le moins, ma porte s'ouvrait violemment et l'équipe de relève me lassait. Ou bien encore, pendant 3 jours et 3 nuits consécutives, 8 heures de camisole alternaient régulièrement avec 8 heures de récupération. Et juste au moment où je commençais à m'habituer à ce rythme de mon supplice, on le modifiait soudain et on m'infligeait d'un seul tenant 2 jours et 2 nuits de camisole. Toujours, durant ce temps, revenait l'éternel leitmotiv « Où est la dynamite ?» Et toujours, ne sachant à quel saint se vouer, le gouverneur Atherton passait de l'excès de sa colère à des supplications presque. Toujours, il faisait miroiter à mes yeux 1000 avantages si je me décidais à parler. Le docteur Jackson, maigre et sec comme un coup de trique, et qui n'avait de la médecine qu'une légère teinture, se montrait sceptique sur les résultats du traitement expérimenté avec moi. Il persistait à affirmer que la camisole, si souvent qu'on en usa, ne parviendrait pas à me tuer. Plus il affirmait cette opinion, plus le gouverneur Atherton se piquait au jeu et continuait. « Les types de ce calibre, déclarait-il, sont des durs à cuire, c'est entendu, mais je serai plus tenace encore. Tu m'entends bien, Standing ? Ce que tu as encaissé jusqu'ici, ce n'est qu'un jeu d'enfant auprès de ce qui t'attend. Tu ferais mieux de t'épargner ce qui te pend au nez. Tu sais que je suis un homme de parole, je t'ai dit déjà, la dynamite ou la mort. Rien n'est changé, fais ton choix. » Tandis que, face de tourte, le pied dans mon dos serré dur, et que de mon côté je gonflais mes muscles pour tricher sur l'espace respirable, je tentais de balbutier. Je vous répète que ce n'est pas pour mon plaisir que je m'obstine à me taire. Il n'y a rien à avouer. Je couperai moi-même en cet instant ma main droite pour avoir la satisfaction de vous conduire auprès de n'importe quelle dynamite. Atherton ricana. C'est bon, j'en ai vu des comme toi, qui ont des crampons dans la tête pour s'accrocher envers et contre tout à leur marotte. Tu es comme les chevaux rétifs. Plus on tape dessus, plus ils se rebiffent. Allons, Jones, serre encore un peu, je t'en prie, un cran de plus. Standing, si tu n'avoues pas, tu y laisseras ta peau. C'est mon dernier mot. À ce régime, je connus que sa rigueur même avait sa compensation. Plus l'homme s'affaiblit, moins il est susceptible de sentir la souffrance. La douleur s'émousse sur un corps débile. Les hommes les plus forts sont ceux aussi sur qui les maladies sont les plus violentes. On sait cela. Et à mesure que l'énergie vitale se consume, les réactions sont moins aiguës. C'est ce qui se passa en moi. Je devins peu à peu une sorte de loque filamenteuse et inerte qui s'obstinait à vivre. Morel et Oppenheimer, qui savaient quel traitement je subissais, en étaient navrés pour moi. Ils m'envoyaient par d'incessants tapotements leurs conseils et leurs marques de sympathie. Oppenheimer me disait qu'il avait connu pire encore et que pourtant il n'en était point mort. « Ne leur permets pas de te dominer, Standing, » épelait-il des doigts. « Tiens leur tête et ne te laisse pas mourir. Ils en seraient bien trop ravis. Et surtout, ne vends pas la mèche, moins que jamais. » Couché sur le dos dans ma camisole, je ne pouvais répondre qu'avec le pied. Du bord de ma semelle, je tapotais en réponse. « Il n'y a pas, je te l'ai dit, de mèche à vendre. Je ne sais rien, rien, rien. » « Entendu et compris, » approuva Oppenheimer. Et il continua à l'adresse d'Ed Morel. Standing était patent. « Comment voulez-vous que je puisse arriver à convaincre le gouverneur Atherton, puisqu'Oppenheimer lui-même ne savait qu'admirer ma force d'âme à garder mon secret ?» Lorsque je dormais, je me mettais aussitôt à rêver. Ces rêves avaient entre eux une remarquable cohésion, échafaudés sur une base réelle, ils se rapportaient toujours à mon ancien métier d'agronome. Souvent, il me semblait que je parlais devant une réunion de savants assemblés pour m'écouter. Je leur lisais les documents mis en ordre par moi et qui avaient trait soit à mes propres recherches, soit à celles d'autres confrères. Et quand je me réveillais, si précis avait été mon rêve, qu'il me semblait que ma voix sonnait encore à mes oreilles. Il me paraissait voir encore devant mes yeux les dactylographes tapant sur du papier blanc, phrases et paragraphes de leur compte rendu. Plus souvent, je voyais s'étendre devant mes regards sur des centaines de miles, vers le nord et vers le sud, d'immenses terres arables, sous un climat tempéré, assez semblable à celui de la Californie. La flore et la faune étaient également celles de ce pays, et dans tous mes rêves, remarquez-le bien, c'était toujours ce même décor au milieu duquel je me retrouvais. D'ordinaire, je m'acheminais de longues heures dans une voiture attelée de chevaux de montagne, parmi des prairies d'Alpha, où paissaient des vaches de Jersey. J'arrivais ainsi à quelques villages perdus près d'un torrent desséché et j'y quittais ma voiture pour prendre un petit chemin de fer à voie étroite, à l'aide duquel je continuais ma promenade. Et chaque fois que je m'endormais et revenais dans mes rêves, la même voiture, le même petit chemin de fer, le même paysage, les mêmes arbres, les mêmes montagnes, le même village, les mêmes gués et les mêmes ponts. Parmi cette région de culture rationnelle, j'emménageais une ferme modèle où j'installais une colonie de chèvres d'Angora. Puis, à chaque rêve nouveau, je suivais les progrès de mon exploitation selon le temps écoulé et la saison. Oh, ces pentes montagneuses, couvertes de broussailles, comme elles se transformaient peu à peu, à mesure que mes chèvres broutaient, les halliers épais, le sol commençait à se dégager et des sentiers à s'y tracer. Seuls subsistaient les buissons trop hauts, où mes chèvres, en se dressant sur leurs pattes de derrière, ne pouvaient atteindre. Alors un jour, des hommes arrivaient pour continuer le défrichement. Ils abattaient à coups de hache les grands taillis, et les chèvres continuaient plus outre leur ouvrage. Lorsque venait l'hiver, tous ces fagots secs, tous ces squelettes décharnés de l'ancienne végétation, étaient mis en tas et brûlés. Et au printemps, lorsqu'une herbe épaisse et verte avait poussé sur le sol renouvelé, j'arrivais avec mes troupeaux de bestiaux. Après leur passage, la terre était labourée pour produire, l'année suivante, de riches moissons. De colline en colline, de pente en pente, de versant en versant, se poursuivait toujours plus loin l'œuvre de la colonisation. Oh, ces rêves de la camisole, où sans cesse je retrouvais mes belles récoltes alternées, de froment, d'orge, de trèfle, mûres pour la moisson, tandis que mes chèvres allaient toujours en broutant vers l'horizon. Lorsque je ne dormais point, je m'efforçais, comme me l'avait conseillé jadis Philadelphie Red, d'accrocher mon idée à un homme et à une pensée. C'était immanquablement vers Cecil Winwood que convergeaient mes idées, vers le faussaire poète qui, de gaieté de cœur, avait fait tomber sur moi toute cette calamité et qui, tandis que j'agonisais là, se promenait librement au soleil. Et mon cerveau, dès lors, ne le lâchait plus. Je ne puis pas dire que je le haïssais, non, le mot serait trop faible. Il n'existe pas dans la langue anglaise d'expression capable de traduire ce que j'éprouvais pour lui. Ce que je puis dire seulement, c'est qu'un désir fou de vengeance me hantait sans trêve et me rongeait le cœur d'une extraordinaire souffrance. Durant des heures, j'échafaudais à son intention des plans et des variétés nouvelles de torture. Celle qui me plaisait davantage était cette vieille farce qui consiste à lier au corps d'un homme bien appliqué contre lui une gamelle de fer dans laquelle on a préalablement mis un rat. Le rat n'a d'autre ressource que de se trouer lentement une issue à travers le corps de l'homme. Vive Dieu ! Comme je me délectais de cette pensée, j'en étais devenu incroyablement amoureux. jusqu'au jour où je réfléchis que ce supplice était trop aimable et trop rapide. Après de longues réflexions, je jugeai préférable de pratiquer sur Cécile Winwood une autre bonne farce bien supérieure et que les morts ont, paraît-il, inventée. Mais en voilà assez sur ce chapitre, et je me suis promis de n'en pas dire davantage sur les vengeances que je mijotais envers le gredin dans l'affolement de mes souffrances.